Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies spécial Étrange Festival jour 10. Et aujourd'hui, on va parler d'un nombre indéfini de films. Voilà, parce que j'ai fait que deux séances, mais il y en a une qui était une intégrale, donc forcément, il y a beaucoup de films. Si on parle en l'occurrence de courts-métrages, mais je vais quand même essayer de les aborder. Et on va tout de suite justement commencer par ça avec l'intégrale Alberto Vasquez. Alors, Alberto Vasquez, avant de parler des films spécifiquement, parlons un peu de son cinéma en termes généraux. C'est quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui est venu me présenter ses films, donc d'abord ses courts-métrages, après son premier long-métrage, et en fait c'est un mec qui vient de la bande dessinée et qui du coup a décidé de notamment commencer au cinéma en adaptant une de ses bandes dessinées, voilà. Et donc il a la particularité de prendre des enfin de faire des films plutôt sombres, voilà, des films où vraiment qui respirent pas forcément la joie, et puis de prendre des figures un peu enfantines et mignonnes, parce que c'est vrai que vous regardez par exemple vous regardez Bird Boy, vous regardez Sangre de Unicornio, c'est même des Corrado pour certains, c'est des créatures qui sont vraiment qui pourraient se trouver dans un cartoon pour enfants, quoi. Et au final, elles sont amenées à des trucs plutôt sombres comme des trucs de drogue, on en reparlera, mais voilà, des sujets de drogue, des sujets de catastrophe écologique, enfin voilà, il sert de ces figures enfantines pour les détourner, les amener parfois vers un univers plutôt punk, et voilà, tout simplement les détourner de leur usage premier pour parler de l'actualité et des problèmes de la société d'aujourd'hui. Voilà, il arrive toujours à faire écho, donc ça c'est plutôt impressionnant. Donc on a vu 5 courts-métrages de lui, je vais essayer de tous vous les faire, même si je vais pas passer beaucoup de temps sur tous les courts-métrages, voilà. Mais donc du coup, on va aller dans l'ordre chronologique avec Bird Boy, voilà.
Vamos, es nuestra oportunidad. Cuando aprenda a volar, será imposible cazarlo.
¿Quién es ese chico, Dinky? ¿Un compañero de clase?
Sí, se llama Bird Boy, pero va muy pocas veces a la escuela.
Por favor, que no nos vea. Qué miedo.
Sí, míralo, qué mal está. No puede ni andar.
Seguro que va a drogarse.
Après l'explosion, Dinky et Bird Boy, deux enfants solitaires, errent dans le décor, fantasmant une vie meilleure. La matrice de Psychonautas, encore plus mélancolique que sa version longue. Alors, c'est vrai, voilà, et je trouve dans le sens où, enfin, que c'est plus efficace que Psychonautas, pardon, dans le sens où c'est beaucoup plus court et ça se focalise sur donc Dinky et Bird Boy, mais de manière, enfin comment dire, au début ils sont un peu en chemin séparé, puis après ça se focalise sur quand même leur relation à eux deux. Donc moi j'ai trouvé ça beaucoup mieux, parce que vous verrez que ce que je reproche notamment au long métrage, c'est de s'égarer pas mal. Là pour le coup c'est pas du tout le cas. C'est voilà, un film qui reste ouais, où ils restent toutes les deux, enfin tous les deux, où on suit leurs aventures à tous les deux, tout simplement, où on voit la discrimination que subit Bird Boy, voilà, par rapport à notamment son physique, par rapport à sa famille aussi. Donc voilà, c'est assez éloquent en fait de dire ça, de montrer, voilà, comment ce petit être, ce petit enfant oiseau différent des autres est discriminé. Donc voilà, c'est plutôt intelligent. Et donc effectivement, ouais, on voit c'est Dinky qui est la seule vraiment à s'intéresser à lui, à le considérer comme quelqu'un de normal. Donc c'est une histoire qui est plutôt touchante, mais qui en même temps va aborder des problèmes plus graves, voilà. C'est vrai que notamment avec le faux père de Dinky, avec cette catastrophe nucléaire, tout simplement. Donc c'est, ouais, c'est des problèmes super actuels qui sont traités avec Bird Boy. Et voilà, il y a eu des prémices un peu de ce qu'il y a dans Psychonautas, notamment sur la drogue. Il me semble qu'il y a de la drogue dans ce film, mais bref, voilà. J'en reparlerai au moment où je parle de Psychonautas, mais donc bref. C'est un très bon premier court-métrage. En fait, le réalisateur nous a raconté que le but, ça avait été de... Sa BD s'appelle Psychonautas, donc le but c'était de l'adapter en long métrage, mais il s'est dit au moins si jamais on peut pas faire le long métrage, on aura au moins fait ce cours-là. Voilà. Donc c'est, si vous voulez, un très bon préquel, un très bon prémisse à Psychonautas. Allez, on va tout de suite passer à Ramiro Susiarrata, qui est un court métrage qui dure vraiment 1 minute, quelques secondes passées avec un rat qui visiblement peine à maîtriser ses pulsions.
Ti?
Alors c'est même pas, oui, c'est même pas une minute, c'est vraiment quelques secondes où c'est vraiment une scène où un rat fait ouais. Dans la boîte, là, il y a l'amour et la gentillesse que je réserve à mon prochain, etc. Et donc, il y a quelqu'un qui lui prend la boîte et qui fait « Et du coup, je peux voir ?» Il lui prend la boîte et le rat commence à se vénère et le déchiquette littéralement. Voilà, fin du cours. Ça dure vraiment 10-15 secondes, je pense, cette scène-là. Peut-être un petit peu plus, mais grand max 20, je pense. Et on a tous éclaté de rire à la fin parce que c'était... voilà, on s'y attendait tellement pas. C'est... bref, c'était brutal, court et intense. Et voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu, même si, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et on va maintenant passer à Sangre de Unicornio. Un magistral prélude à Unicorn Wars que je vois demain. Voilà, d'ailleurs, on en reparlera à la fin de l'épisode. En noir, rose et sang, dont le trait et le pessimiste absurde rappellent Roland Topor. Alors, je ne connais pas ce monsieur, mais voilà. Ça se trouve, j'ai dit une énormité, c'est un manque de culture colossale, mais voilà. Donc, oui, effectivement, c'est deux nounours qui sont chasseurs. Quand je dis que ça détourne les codes enfantins et tout, bah voilà, là, on a l'exemple parfait des nounours. Il y en a un qui a un nœud papillon et tout, c'est censé être des trucs plutôt mignons, qui sont totalement détournés de leur usage premier pour là, chasser et tuer des licornes tout simplement. Et donc il y a des licornes qui en gros on nous dit ouais, quand les licornes vont mourir ça va être le monde va être gouverné par les pires espèces qui existent, c'est-à-dire les hommes. Et donc ouais, effectivement il y a cette chasse à la licorne je saurais pas trop c'est celui peut-être où j'ai le moins de choses à dire, je pense. Sangre de Unicornio, qui, ouais, je sais pas, ça m'a pas forcément marqué ce film en fait, à part voilà que justement cette manière de détourner des petits nounours et de les amener plus vers le punk, un truc beaucoup plus sombre, c'est moi c'est principalement ce qui m'a marqué. Après le truc avec les licornes, ça me, ouais, il y a cette licorne assez poétique qui se jette dans le vide plutôt vers la fin. Donc ça peut être un peu poétique, voilà. Elle préfère se jeter dans le vide plutôt que se faire attraper par les nounours. Mais en même temps, le fait qu'elle se jette dans le vide, ça amène l'avènement des humains. Donc voilà, c'est vrai que il y a probablement quelque chose que je loupe là-dedans. Mais c'est globalement ce que j'ai pensé du film. Je trouve que j'ai trouvé ça assez sympa. Je pense que c'est pas celui que j'ai le moins aimé, quoique. Si, peut-être que si. Mais ouais, mais en tout cas, c'est celui dans lequel j'ai le moins de choses à dire. Voilà. Donc je vais pas forcément m'attarder plus, surtout qu'il y en a pas mal derrière. On va tout de suite passer à Decorado.
El mundo es un maravilloso escenario, pero tiene un reparto deplorable.
Une succession de vignettes cauchemardesques, Alberto Vasquez évoque les terribles solitudes 2.0. Ces petites créatures, mille fois reconnaissables, tentent de survivre dans un cauchemar du XXIe siècle. Alors ça, c'est un truc... ça fait limite... c'est vignette parce que c'est court, mais ça pourrait limite faire un truc à sketch, quoi, voilà. Et donc, il y a ce truc de qui commence, je crois, où... des gens parlent en mode oui, moi c'est je sais pas combien tiré du bas 69. Est-ce que ça te dit qu'on se rencontre sous l'arbre, etc.? Et en fait, c'est une oursonne, je crois, qui y va et qui arrive sous l'arbre. Et en fait, c'est genre un vieux monsieur, un monstre, etc. Et du coup, elle s'enfuit. Et donc, ouais, il y a ça. Il y a en fait un mec qui fait oui, mais je trouve pas que tout ce qui est autour de nous, on dirait un décor. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Decorado. Et donc il y a cette critique là sur les différentes choses de notre société actuelle, notamment le déni dans lequel s'enfonce ce personnage là, puisque son ami est mort et il fait ouais, je vais aller faire je sais pas quoi avec cet ami là pour oublier mes problèmes et le fait que j'ai pas de travail, alors que plus dans le film il fait ouais, mais je vais au travail, et sa femme lui fait oui, mais tu n'as pas de travail. Ah oui, c'est vrai, voilà, donc il y a ce personnage-là qui préfère fuir son époque plutôt que affronter la vérité en face. Et donc il y a ce ce truc où tous les autres, où ils sont dans le monde avec lui, ont des yeux vraiment noirs, hyper sombres, qui font vraiment macabre. Alors que lui, c'est le seul à avoir des yeux entre guillemets normaux, blancs, tout ça orbite. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. À un moment, ils lui font. Alors c'est vrai qu'on vit dans un décor, mais au moins c'est notre décor, voilà, donc essaye de l'accepter. Et il fait oui, vous avez raison, c'est vrai que au moins c'est notre décor, et il dit ça avec des gouttes de sueur qui coulent, mais donc c'était le seul à peu près lucide dans ce monde-là, qui n'est pas totalement tombé dans le jeu de, je me prête au jeu de, je sais que le monde est un décor, mais c'est pas grave, je vis dedans, c'est le seul qui posait encore un peu des questions, qui résistait encore un peu, tout le reste était totalement, plongé dans ce monde-là, prisonnier en fait en quelque sorte de ce monde-là, du rôle qu'il joue dans ce monde-là. Donc ouais, effectivement, voilà, c'est comme je dis, Alberto Vázquez, c'est un mec qui arrive quand même pas mal à parler d'aujourd'hui à travers cette animation un peu enfantine, voilà, donc du coup c'est un des sujets qui revient le plus à travers tous ses films. Et enfin, on va parler de mon film préféré de lui, long et court compris, j'ai pas vu Unicorn Wars, mais donc voilà, c'est Homeless Home.
Trabajo no hay, pero siempre puedes montártelo por tu cuenta, ser tu propio jefe, llevar cosas de aquí para allá. Los viejos amigos a veces regresan. Supongo que nadie puede escapar de sus raíces, aunque estas estén completamente podridas.
Donc Alberto Vázquez innove en optant pour une attirance pour les ténèbres, une épure de la silhouette et des ombres empruntée à l'univers ténébreux de la fantasy médiévale pour évoquer des thèmes contemporains comme la dépopulation, la crise économique, la nécessité d'un retour à la nature. Alors c'est du noir et blanc globalement, du noir et blanc super magnifique, je trouve vraiment ces dessins. C'est vrai que j'ai pas parlé de dessin, mais en même temps, l'animation c'est quelque chose que je respecte énormément, vraiment beaucoup. Mais c'est quelque chose dont j'ai aussi beaucoup de mal à parler, voilà. Donc c'est pour ça que faut pas m'en vouloir si jamais je développe pas trop sur l'animation. C'est juste que je me sens pas forcément compétent, j'ai pas forcément les termes pour en parler, et je trouve ça beaucoup plus compliqué à analyser pour moi, voilà. Effectivement, il y a ce travail où les personnages sont quasiment tous des silhouettes, voilà. Ils sont tous vraiment noirs comme des silhouettes, il y a vraiment ce film assez sombre en fait. C'est assez sombre comme film. Je sais plus exactement ce qu'il y a comme situation, mais moi ce qui m'a marqué c'est cette situation de la guerre en fait. Voilà, c'est un film en noir et blanc, mais il y a parfois du rouge, et donc notamment un mec qui va à la guerre et est-ce que vous avez déjà vu une rivière de sang? Moi j'ai déjà vu, je me suis baigné dedans. Donc il y a littéralement cette image où il se baigne dans la rivière de sang qui m'a vraiment imprimé la rétine pour le coup. Je trouvais ça vachement impressionnant, vachement marquant, vachement puissant en termes de dénonciation de la guerre. Toutes ces piles de cadavres avec le sang qui coulait, c'était... Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas un cinéma très joyeux, c'est même plutôt déprimant. Vraiment, vraiment, vraiment fort, quoi. C'est des plans qui m'ont imprimé la rétine. Et donc après, il y a ce truc où il retourne auprès d'une sorcière avec qui il a des sentiments, ils sont pas en couple parce que la sorcière est censée être en couple avec un espèce de monstre. Sauf que le monstre... et pas très très content que lui revienne, voilà. Et donc il y a une bagarre, et au moment la sorcière met feu au monstre, et donc c'est là où il y a ces autres teintes de rouge, voilà. Effectivement c'est un film en noir et blanc avec globalement des teintes de rouge parfois pour selon les circonstances du film, mais qui est bien pessimiste, qui offre un constat quand même sur ça se passe dans une forêt notamment, donc oui effectivement il y a ce truc de retour à la nature, ce soldat qui en a marre de la guerre et qui fuit pour revenir chez lui parce que il a besoin de ça tout simplement. Donc il y a un peu aussi ce retour aux sources, ça a été fait pendant la crise du Covid, donc c'est pas anodin, voilà. Et c'est peut-être le plus pessimiste, mais moi c'est vraiment mon préféré. Allez, donc on va maintenant passer pour le dernier film de cette intégrale avant Unicorn Wars demain à son premier long métrage, à savoir Psychonautas.
Nada sale nunca como esperas.
Thank you.
Dans une île aux allures d'apocalypse, deux petits êtres fuient à la recherche d'un destin meilleur. Alors, c'est un film qui est dans la... Enfin, c'est même, on peut dire, la suite de Bird Boy, qui est dans la directe continuité, qui... Voilà, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve, je crois que c'est Dixie et Bird Boy, Dinky, pardon, et Bird Boy. Donc, voilà, qui ont grandi depuis, qui ne se voient plus forcément, parce que... Bird Boy est rongé par un démon à l'intérieur de lui dont il doit se débarrasser, dont il n'arrive pas. Mais Dinky a essayé de l'aider, mais il l'a repoussé, voilà. Et donc, pour moi, ce démon à l'intérieur de Bird Boy, c'est surtout son addiction à la drogue, toutes sortes de drogues. Hein. En fait, le réalisateur nous expliquait qu'il vient de la région de Galice et en fait, il a grandi dans les années 80, il me semble. Et c'est donc là, dans les années 80. Où, en fait, dans cette région, c'est là où toute l'héroïne, donc la drogue, rentrait. Donc, voilà, lui, il a souffert de ça, et il le met aussi dans ce film-là. Et donc là, l'addiction à la drogue de Bird Boy est symbolisée par ce démon qui le possède. C'est vrai que c'est quand même un film qui est à la fois sur l'adolescence, sur l'émancipation, sur la manière d'essayer de se débrouiller par soi-même, etc. Mais aussi qui parle vraiment pas mal de drogue qui est assez badant en fait, vraiment parce que donc Bird Boy il fait vraiment très enfant, donc voilà, le fait de voir un enfant, même si c'est un enfant oiseau, un enfant se droguer avec vraiment de l'héroïne, des pilules, je sais plus comment ils appellent ça, des médicaments de joie ou un truc comme ça, des pilules de joie, bref. Je suis pas spécialiste en drogue, mais c'est clairement de la drogue. Mais donc, voilà, c'est un peu triste de voir ça. Donc, effectivement, on est reparti tout de suite dès le début dans un truc plutôt sombre. Et donc, Dinky choisit de s'enfuir de chez elle avec deux autres amis. Et en plus de ça, on a une histoire sur le dealer de Bird Boy. Qui est pêcheur mais qui souhaite se partir quand sa mère sera morte. En attendant, il s'en occupe. Et en fait, pareil, il y a un monstre qui possède sa mère, qui prend la forme d'une araignée et qui réclame toujours plus de drogue. Mais donc, c'est nocif pour le corps de sa mère, mais ça satisfait le monstre, voilà. Donc, il y a toutes ces métaphores autour de la drogue. Et on sent que le réalisateur connaît bien ça, il en a vraiment souffert, ça se sent dans la manière dont il a de montrer ça, et c'est plutôt intelligent. Maintenant, comme pour ses autres films, je trouve l'animation très belle, j'aime beaucoup sa manière d'animer. Maintenant, effectivement, ce qui est vraiment dommage, c'est que justement je vous ai parlé du groupe de Dinky, de Bird Boy et de ce garçon, enfin de son dealer à Bird Boy, et donc je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est pas forcément important. Ça veut dire que simultanément donc on a trois histoires, voilà. Et moi c'est ça qui m'a gêné, c'est que je trouve que le film aurait pu se décomposer peut-être en trois courts-métrages vous savez, ces films comme Comble du hasard et autres fantaisies ou 5 cm par seconde, dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, où on a trois histoires, trois cours au sein même d'un même film, voilà. Donc c'est peut-être, les histoires auraient gagné à être décomposées plutôt qu'à être abordées tout en même temps, parce que moi c'est ça qui m'a gêné. C'est un peu dommage parce que du coup c'est un peu trop brouillon, c'est un peu trop... je trouve le récit pas assez construit, pas assez équilibré en termes des trois histoires. C'est vraiment, vraiment, vraiment regrettable. Parce que franchement, il y a des réflexions super intéressantes, il y a une super animation. C'est cette relation qui est vraiment touchante. En tout cas, toutes les relations de Bird Boy qui sont vraiment touchante, que ce soit avec son père, que ce soit avec Dinky, on découvre les relations qu'il a pu avoir, qu'il a actuellement, plutôt touchant de voir aussi ces histoires avec les policiers qui sont prêts à tout pour... Il y a un vrai discours aussi pour moi sur les violences policières, de vraiment, ils sont prêts à buter des pauvres petits oiseaux parce que c'est des complices de Bird Boy soi-disant, etc. Donc oui, pour moi, il y a aussi un vrai discours sur les violences policières, donc c'est dommage parce que c'est une œuvre qui est vachement complète, où il y a vachement de choses. Par contre, je trouve que le fait que ça se concentre sur beaucoup trop de choses à la la fois, et que ce soit plutôt déconstruit, je trouve que ça crée pas mal d'ennuis malheureusement. Et donc effectivement, c'est pour ça que ce film m'a laissé un peu sur ma faim. Après, c'est un bon film, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. J'ai passé un bon moment devant le film. C'est juste dommage que ça crée autant d'ennuis. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est dans la continuité de ce qu'on avait vu avant. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un tournant dans l'animation. C'est vrai que jusqu'à quand même. Alors, dans Decorado, il utilise quand même des... Enfin, c'est un peu un mix de tout de sous ces autres courts-métrages, en fait, Decorado en termes d'animation. Mais c'est vrai que... je sais pas. Mais après, oui, ceux qui sont plus proches, c'est clairement Bird Boy et Psychonautas, mais c'est normal vu que c'est une suite. Après, celui qui se démarque des autres, pour moi, c'est clairement Homeless Home, mais c'est celui que j'ai préféré en termes d'animation. Après, il y a le court-métrage super court. C'est un truc qui est... J'ai pas envie de dire bâclé, mais on sent qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'investissement. Et c'est normal, franchement, pour le peu de scènes qu'il y a. Et donc, Sangre de Unicornio, c'est un peu comme Bird Boy en termes d'apparence des personnages, sauf que c'est vraiment beaucoup plus dessiné, alors que dans Bird Boy, il y a un mix entre du dessin et de la 3D. Donc voilà, et Decorado, c'est à peu près pareil. Comme je disais, un mix entre tout. Donc effectivement, voilà, il y a cette évolution qui est intéressante à regarder dans son cinéma. Et je suis plutôt pressé de voir Unicorn Wars parce que, d'après l'image qu'on en a dans le programme de l'étrange, c'est vraiment différent de tout ce qu'on a vu là. Voilà, donc on verra bien Unicorn Wars ce que ça donne. Je suis plutôt pressé de le voir et voilà, ce sera demain du coup. Et je pense que j'en ai fini avec cette intégrale Alberto Vasquez. J'en aurais fini demain avec Unicorn Wars, mais voilà. Donc je vais pouvoir passer tout de suite au deuxième film. Où je pense un peu galérer à en parler, vous comprenez pourquoi. Mais on va tout de suite parler de Family Dinner de Peter Engel. Timmy, une adolescente déprimée par son surpoids, met beaucoup d'espoir dans le week-end de Pâques qu'elle va passer chez sa tante, une nutritionniste célèbre, prête à lui prodiguer les meilleurs conseils. Mais entre un cousin hostile, une spécialiste dictatoriale et un beau-père trop gentil pour être honnête, l'ambiance se révèle vite peu rassurante. Alors bon, j'ai pas vu beaucoup de films de Haneke, j'ai vu que Funny Games, mais on sent quand même qu'il y a une volonté de s'en inspirer, c'est indéniable. C'est un film que je trouve plutôt efficace dans son début, dans la mise en place des choses, justement dans tout ce qui est dit. On a vraiment cette situation qui est bizarre, voilà, où en gros on arrive et on a ce mec son beau-père, on va aller faire un par un, son beau-père qui est vraiment, comme c'est dit, un peu trop gentil, voilà, qui lui dit qu'elle est une très belle femme et qu'elle devrait pas avoir honte de son corps, etc. Donc bref, un peu douteux comme rapport à avoir avec une enfant, tout simplement, parce que c'est encore une ado. On a également sa tante, la nutritionniste, qui a l'air super protectrice avec son fils, qui a l'air un peu aussi bipolaire, qui peut péter des câbles des fois, qui a des rapports un peu bizarres, enfin voilà, qui est vraiment pas rassurante. Et puis le neveu, son cousin, qui pour le coup a vraiment des sauts d'humeur, il est convaincu que sa mère lui veut du mal, etc. Donc forcément, il y a une ambiance où il y a beaucoup de trucs, et donc rapidement, on en vient se demander, mais qui dit la vérité ? Voilà, qui a raison en fait ? Est-ce que la mère dit la vérité quand elle dit qu'elle veut protéger son enfant qu'elle veut le garder près de lui parce que c'est la chose qu'elle a de plus précieux au monde ? Est-ce que, est-ce que l'enfant dit la vérité quand il dit que sa mère le veut du mal ? Est-ce que le beau-père est aussi gentil que ce qu'il en a l'air alors qu'en vrai, il est quand même vachement dur avec son beau-fils ? Donc c'est tout de suite un film où il y a beaucoup de mystères qui planent. On ne sait pas vraiment à qui on doit faire confiance. On ne sait pas du tout non plus pourquoi elle tient autant à perdre du poids. Donc c'est vrai qu'en plus, c'est un régime. Elle lui fait « Ouais, donc tu ne vas pas manger pendant Oh, il doit y avoir minimum 5 jours sans manger, quoi, pour se détoxifier. Donc, c'est vrai que ça fait pas mal, quoi. Ouais, c'est tout de suite une ambiance bizarre, bizarre, qui fait que on a envie de savoir lequel est tout simplement, lequel ment, lequel dit la vérité, qu'est-ce qui se passe, quels sont les secrets de cette famille. Et en fait, petit à petit, le film perd sa promesse, perd ses promesses et ne les tient pas, voilà, perd cet engouement qu'on peut avoir. En tout cas, on a ce truc de très daté en termes de jours, c'est-à-dire que y a des petits trucs ou des petits cartons avec lundi, mardi, etc. Enfin, là, pour le coup, comme c'était en anglais, Monday, Tuesday. Et d'ailleurs, quand il y avait les petits cartons, moi j'avais le j'avais la musique Laissez-moi danser de Dalida dans la tête. Par rapport au jour de la semaine, bref, passons. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, chapitre en jour, donc c'est linéaire. Maintenant, c'est vrai que c'est un film qui est globalement en huis clos. Il y a des petites escapades dans la forêt, notamment, mais sinon, ça se passe toujours dans la maison. Et pour moi, un huis clos, en tout cas, un huis clos de la sorte, ça doit être sur un laps de temps beaucoup plus court, parce que là sur la semaine il y a trop de ça tire trop en longueur, il n'y a pas vraiment de enfin on n'arrive pas à déceler de réels enjeux en fait. C'est pas un film qui si le film aurait été plus court, on aurait eu les événements qui se seraient beaucoup plus enchaînés et donc il y aurait eu beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus d'intérêt. Là c'est vrai que comme ça tire beaucoup trop et que les événements sont beaucoup trop étalés, on a tendance à se perdre un peu dans ce schéma scénaristique là et c'est fort dommage parce que en soi le film a pas un concept mauvais, mais maintenant ouais c'est vrai que ça joue pas super bien. Voilà, c'est vrai qu'on nous a fait l'éloge de l'actrice principale etc qui c'était un de ses premiers rôles, je sais pas quoi. Bref, avant la séance, on nous a fait cet éloge-là. Moi, je trouve que ça joue pas super bien, pour être honnête avec vous. C'est toujours un peu compliqué de dire ça comme ça. Écoutez, quand on pense quelque chose comme ça, il faut le dire. Moi, je suis aussi là pour dire ce que j'ai pensé des films, voilà, de manière très honnête. Donc, effectivement, je trouve que ça joue pas super bien. Ça dépend après desquels, hein. Il y en a qui sont au-dessus d'autres, mais c'est vrai que voilà, bon, ça aurait pu être mieux. Mon vrai problème avec le film, c'est que même si en termes de composition de cadre, etc., de lumière, ça tient la route, pour moi en termes de scénario, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça tient absolument pas la route, parce que du coup il y a cette construction un peu spéciale, et puis surtout c'est un film qui est extrêmement prévisible. Enfin, on voit que le Philippe, le neveu, il fait beaucoup de fugues. Évidemment, il y a des fusées de Tchekhov, il a un couteau, il est un peu colérique, agressif, voilà. Il y a beaucoup de trucs qui sont évocateurs de ce qu'on pourrait comprendre, le fait qu'elle soit nutritionniste, qu'elle cuisine bien, qu'elle soit overprotectrice. J'ai fait du franglais, c'est horrible, mais bref. Il y a beaucoup de trucs, mais en fait, quand on regarde, où ça fait que c'est évident, et je vais un peu spoil pour la fin de ma critique, mais du coup, je vais essayer de dire tout ce que j'ai à dire avant, même si je vois pas d'autres trucs. C'est un film qui a une interdit au moins de 12 ans, en tout cas à l'étrange. Je comprends pas forcément pourquoi. Je considère pas qu'il y a forcément quelque chose de choquant, voilà. Mais donc ouais, c'est je sais pas, le seul truc qui aurait pu être un peu intéressant c'est cette personnage principal qui veut à tout prix perdre du poids et on sait pas forcément pourquoi, et c'est jamais vraiment expliqué, donc c'est dommage parce que ça aurait pu faire une belle leçon. On lui dit des fois, hein, tu sais, tu devrais apprécier ton corps comme il est, etc., mais on sait pas du tout pourquoi, donc c'est dommage parce que ça aurait pu être un des trucs les plus intéressants du film, du scénario, du propos, etc. Mais c'est laissé totalement de côté, je trouve ça fortement dommage. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a... Là, je vais commencer à spoil, donc si vous voulez voir le film, arrêtez là, allez directement à l'outro. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc de, au fur et à mesure, on avance, et où ils se disent, ok, ils vont fuguer tous les deux, elle lui parle un peu mal, et le matin, elle se réveille, il n'est plus là. Et donc elle lui envoie un message, pourquoi t'es parti sans loi, il lui envoie un doigt d'honneur. Donc là, à ce moment-là, les parents apparemment se rendent compte qu'il a fugué. Oh là là, c'est bon, j'ai appelé son père, il est arrivé à Vienne, il est avec son père, donc il va bien. D'accord, ok, oui, bien sûr, pas à moi. Je fais partie de ce qu'on appelle des fans de cinéma de genre. Donc, si tu veux, dans une situation comme ça, voilà, quand on me dit il est parti, il est à Vienne, il va bien, il est avec le daron, je sais très bien que c'est pas vrai. Voilà, je le sais pertinemment. Il faut arrêter de faire genre que je le savais. Et donc, du coup, quand la protagoniste décide de rester pour Halloween, oui, bien sûr, mais oui, mais totalement, pour Pâques, désolé, c'est la fatigue. Non, mais pour Pâques, et qu'on lui sert de la viande à manger, et que bizarrement, elle pose pas la question de « Oh, c'est quoi comme viande ? J'ai jamais vu ça. » Voilà, bon, on se doute un peu de ce que c'est la viande, voilà. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait un film à l'Étrange Festival qui était Barbac. Disons que... voilà, à Pâques, ils ont mangé du porc d'Iran, quoi. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu Barbac, ça veut dire qu'ils ont mangé du Philippe, de l'humain, quoi, globalement, si vous voulez. Et donc, à la fin, il y a vraiment ce truc de... Oh non, mais le cadavre de Philippe est dans la grange ou je sais pas où, mais on s'y attendait tellement pas. Mais si, c'était tellement évident. Voilà, ça essaye comme en fait de passer comme un twist. Sauf que c'est un truc qu'on voit venir tellement à des kilomètres, mais à des kilomètres que vraiment du coup ça passe pas. Et voilà, j'y crois pas en fait. Comme j'ai déjà repéré ce twist là, je n'y crois absolument pas. Et voilà, tout simplement, c'est vraiment problématique en termes de scénario. Et voilà, donc en termes de construction, en termes de prévisibilité, en termes de propos qui auraient gagné à être beaucoup plus étoffés. Et donc voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que ce truc de. Bon, ça a été pas mal vu quand même, mais je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire au moins de ce concept-là, quelque chose de plus horrifique, de plus psychologique, et je trouve que, voilà, hormis ce truc de où on sait pas trop lesquels sont bons, lesquels sont mauvais, dans le sens moral, on sait pas trop qui ment, qui a raison, donc bref, bon, effectivement, hormis ça, je trouve que le film va vraiment pas forcément développer son propos, et va pas très loin dans ce qu'il veut proposer, donc je trouve ça franchement dommage, et voilà, donc pour moi, ça a été une déception, et d'ailleurs, c'est vrai que, hormis Like For Sale, tous les films qu'on a vu tard à l'Étrange Festival, franchement, c'est pas terrible. Et L'Origine du Mal, bien sûr, mais bon, L'Origine du Mal, c'était voilà, c'était exceptionnel. Donc, il y a vraiment ce truc de voilà, où c'était vraiment pas forcément terrible, tous ces films voilà, où on se dit, bon, bah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont calé à 22h, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que quand on va à 22h, qu'on est fatigué de la journée, moi, que ça fait 10 jours que je suis en festival, bon, j'en ai loupé 2, mais quand même, ça fait donc 8 jours, ça fait beaucoup, quoi. Voilà, 8 jours de festival. Voilà, moi il me faut maintenant des films qui arrivent à se démarquer, des films qui proposent des choses parce que sinon je me fais vite chier. Forcément, quand voilà, il y a eu plus d'une vingtaine de séances, donc forcément, ouais, il faut des choses qui se démarquent pas mal. Et donc, quand on a des films comme ça, et puis qu'en plus on a 22h et qu'on est fatigué, bon voilà, on souffle très fort et on sort de la salle vraiment dépité. Et voilà, c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Allez, c'est déjà la fin de cet épisode, je suis vraiment fatigué, je vais aller dormir tout de suite, voilà. Je vous cache pas que le montage, je le réserve à demain, enfin le jour où vous écoutez ça, si vous l'écoutez le jour de la sortie. Je vais rapidement, comme d'habitude, faire mon programme de demain. Donc on aura deux films demain, on aura Attachment, qui est un film de la compétition, voilà, et on aura, comme je vous l'ai annoncé, Unicorn Wars. J'ai vu que le distributeur avait prévu d'offrir des petits goodies pour ceux qui venaient, donc tant mieux, écoutez, moi j'aime bien des goodies. On rentre vraiment dans la dernière ligne droite du festival, là on est sur les trois derniers jours. Le dimanche, si jamais j'y vais, je verrai que la clôture. Moi j'ai vu que c'était complet, donc il faut que j'envoie des mails à l'attaché 13 pour savoir si effectivement je pourrais peut-être avoir une place le jour même ou si c'est vraiment mort. J'espère que je pourrai aller à la clôture parce que le film a l'air vachement cool. Voilà, donc on verra bien. Et écoutez, pour ma part, je vais vous laisser là et je vous dis à demain pour le compte-rendu des films que j'aurai vu aujourd'hui.